Il nous paraît complètement étrange que dans un pays qui est un pays riche, il y ait tellement de pauvres et qu'il y ait de nouvelles catégories de population qui basculent dans la pauvreté. Le fait de consacrer du temps aux autres, c'est une source de joie pour celui qui le fait. C'est une source d'énergie. C'est la capacité de sentir qu'on est dans ce monde et qu'on pèse sur ce monde.
Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'actualité et d'engagement d'AXA France. Comment mettre son optimisme, sa générosité au service de la solidarité? Vous savez, c'est une de ces bonnes résolutions auxquelles on réfléchit souvent en début d'année et si l'on donnait un peu de son temps à une cause, à une association. Alors, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que, bonne nouvelle, la France est une terre de bénévolat, mais très pratiquement, comment ça se passe? On a voulu en savoir plus aujourd'hui en se tournant vers une organisation pionnière du genre, le Secours Populaire, dont AXA est partenaire et dont la présidente est avec nous aujourd'hui, une femme qui a fait sienne la devise du Secours Populaire, tout ce qui est humain est nôtre. Bonjour Henriette Steinberg.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que bon, tout le monde connaît le Secours Populaire. Pas besoin d'en refaire le portrait. Quoique, je suis remonté dans votre histoire pour préparer cette émission. Et alors, si j'ai bien révisé, dans votre forme actuelle, le Secours Populaire français existe depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, 45 ou 46 ?
Exact. Après toutes les années de clandestinité où le Secours Populaire... Secours Populaire français a perdu la moitié de ses dirigeants, exécutés et déportés, parce que le Secours Populaire français a pris de façon puissante la décision de soutenir ceux qui étaient victimes du fascisme, du nazisme et du pétainisme.
Ouais, ça c'est un tropisme qui datait d'un peu plus loin, parce qu'en fait, en creusant, je me suis aperçu que vos prémices datent d'un peu encore avant, c'est-à-dire de la création par des militants communistes de ce qu'était la section française du Secours Rouge International. Et ça, c'était, vous êtes une organisation presque centenaire, c'était aux alentours de 1923. Ma question, en fait, c'est est-ce que ce passé, il résonne aujourd'hui encore dans ce que vous êtes et ce que vous faites? Ou est-ce que c'est de l'histoire ancienne?
Ça résonne au titre de la notion de résistance. Le Secours Populaire est une association pour laquelle la notion de résistance est encore extrêmement présente. Et je peux en donner un exemple récent. Qui est le moment où la puissance publique, du fait de la Covid, a décidé que l'ensemble de la population devait rester chez elle, cloîtrée, ne pas sortir, seulement une heure par jour, éventuellement un peu plus quand ils avaient des chiens. Ouais. La décision du Secours Populaire, nous étions 48 heures avant l'annonce officielle, a été « Le Secours Populaire est un enfant de la résistance, nous ne nous confinerons pas parce que la faim ne se confine pas et que la misère et le malheur ne se confinent pas ». Et évidemment, nous avons consulté les médecins du Secours Populaire pour leur demander comment faire, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de contaminer tout le monde. Et ils nous ont dit, écoutez, c'est très simple, vous sortez les tables et les chaises de vos locaux, vous fermez les locaux et vous agissez dehors. Et c'est ce que nous avons fait, et nous l'avons fait immédiatement. Donc la question de du rapport à la résistance n'est absolument pas un passé lointain qu'on regarderait simplement sur les affiches.
Ça reste une valeur.
Ça reste une valeur, ça reste un engagement. Ça reste une décision et c'est ce qui permet d'agir en fonction de ce que nous, on détermine comme étant une urgence, un besoin, sans nous poser la question de savoir si ça appartient à tel ou tel archétype philosophico-théologique. Ce n'est pas du tout notre truc.
Alors, est-ce que c'est ça qui vous distingue des autres grandes organisations qu'on connaît aussi, qui ont à peu près une histoire de la même durée? Je pense au Secours catholique, à la Croix-Rouge, à l'Armée du Salut. C'est ça qui fait la différence entre vous?
Je pense que ce qui fait la différence en termes d'organisation, c'est que le Secours Populaire a pris la décision depuis l'origine d'être une association décentralisée. La décentralisation, c'est la possibilité pour toute personne de bonne volonté qui veut agir et qui se rend compte que toute seule, ça va être difficile, mais qu'à 3-4, on peut déjà réaliser des choses, de pouvoir le faire sur le terrain, sans avoir besoin de demander l'autorisation, l'imprimatur ou je ne sais quoi, à Paris.
Oui, bien sûr.
Donc nous sommes décentralisés et ça, c'est un vrai choix. C'est évidemment très compliqué à gérer, mais pour nous, c'est très important. Le concret, l'activité, la rencontre, la capacité de générer autour de soi le bénévolat d'autres, c'est tout à fait décentralisé.
Vous parliez de ces autres organisations comme des collègues.
Exact.
Il n'y a pas de concurrence entre vous ?
Il n'y a pas de concurrence entre nous. Je ne sais pas si on doit dire malheureusement ou heureusement.
Pourquoi donc ?
Mais en tout cas, la situation dans notre pays est telle que nous ne pouvons qu'inviter, et là au niveau du Secours populaire, bien sûr, à être acteurs du Secours populaire et au Secours populaire, mais il est possible d'agir avec d'autres structures, d'autres associations. La situation dans notre pays exige qu'il y ait une mobilisation générale sous les formes du choix de chacun, mais qui permettent d'abord de reconnaître l'autre comme son égal et de voir ensemble comment on peut agir sur les maux que vit aujourd'hui notre société. Il nous paraît complètement étrange que dans un pays qui est un pays riche, il y ait tellement de pauvres et qu'il y ait de nouvelles catégories de population qui basculent dans la pauvreté et qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, les personnes âgées auxquelles, quand j'avais une douzaine d'années, j'allais porter des colis dans les cinquième ou sixième étages, qui reviennent au Secours populaire. Donc, c'est évidemment pas les mêmes, et pour cause. Et qui viennent au Secours populaire parce qu'elles n'ont pas de quoi manger, alors que ce sont des personnes qui ont cotisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la situation d'après-guerre ou de post-après-guerre où les personnes n'avaient pas cotisé parce que la sécurité sociale n'existait pas. À cet égard, ce n'est pas inutile de se rappeler que c'est vraiment indispensable. Et donc, aujourd'hui, où il existe tous ces systèmes, les personnes âgées reviennent nous voir. Donc, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? Et on a compris. On a compris parce que ce qui se passe, c'est que les grands-parents ont été caution pour leurs enfants ou petits-enfants pour des achats de nécessités de vie quotidienne. Et puis, ils ont perdu leur travail ou l'entreprise a fermé. Enfin, tout ce qui leur permettait d'avoir leurs ressources ont disparu ou dans des proportions telles qu'ils ne peuvent plus assumer les obligations qui sont liées au crédit. Les grands-parents sont donc appelés en caution par les organismes bancaires. Et de ce fait, comme ils ne veulent pas en plus pénaliser leurs enfants ou petits-enfants, eh bien, ils n'ont plus de quoi manger. Ça, c'est la situation dans notre pays aujourd'hui. Donc, nous, on voit bien, on voit bien ce qui se passe. On est concret, on agit et on informe largement et on invite tous ceux qui peuvent se bouger sur le sujet à ne pas hésiter à le faire. Donc, il n'y a pas de concurrence.
Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là ? C'est-à-dire, comment décide-t-on un jour, j'ai envie de devenir présidente du Secours populaire ?
Alors, en tout cas, je suis présidente par obligation statutaire, mais je ne suis pas présidente du Secours populaire au sens où on entend les présidents habituellement. Je suis secrétaire générale du Secours populaire, faisant fonction de présidente. Et pourquoi j'y tiens ? Parce qu'un président, c'est tout seul, et qu'un secrétaire général, s'il est tout seul, il ne peut pas bosser, donc c'est forcément collectif. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà une question que je ne me suis jamais posée.
Vous n'êtes pas arrivé là par hasard.
Je ne suis pas arrivé là par hasard, je ne sais pas. Je suis né dans une famille qui se sont occupés de leurs enfants. Donc ça, c'est effectivement une grande chance. Des parents engagés dans la vie et des parents qui étaient des survivants de la deuxième, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la misère, les difficultés, c'était quelque chose qui était connu à la maison, enfin, depuis que je suis né, donc il n'y a pas eu vraiment de questions. Et il y a toujours eu de la solidarité, ce qu'on appelle d'ailleurs la solidarité populaire. Donc, la solidarité populaire, je l'ai connue enfant, et donc j'ai continué de le faire. Et donc, j'ai à la fois conduit des activités professionnelles, y compris des activités professionnelles de haute direction. Et simultanément, les journées ont 24 heures, donc je me suis aussi occupée de faire en sorte que la vie tourne mieux pour ceux qui n'étaient pas dans cette situation. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Celui qui m'a identifié, le premier, était le président fondateur du Secours populaire qui s'appelait Julien Lauprêtre. Et donc là, je devais avoir 14 ans et je n'ai pas arrêté depuis.
Vous êtes d'une grande modestie, parce que moi j'ai découvert un livre que vous avez publié à l'automne, ça s'appelle « Ne jamais baisser les yeux », c'est chez Robert Laffont, Et on y découvre que vous avez fait votre première collecte pour le Secours Populaire à 12 ans.
Exact.
C'est pas injure de vous dire que c'était il y a une soixantaine d'années.
Ah, mais c'est pas une injure du tout. C'était au moment de la grande grève des mineurs. La situation des mineurs à l'époque était une absolue tragédie. Et évidemment, celle de leurs enfants s'ajoutait. Et donc, le Secours Populaire a décidé d'offrir des vacances aux enfants. Et pour pouvoir offrir des vacances aux enfants, il fallait collecter de l'argent, parce que le Secours Populaire n'en avait pas. Et donc, j'ai collecté de l'argent à 12 ans, avec un mineur. Et le Secours Populaire était tellement pauvre qu'on n'avait pas de tronc.
De tronc.
De tronc, c'est-à-dire une petite caisse dans laquelle met l'argent. Un tronc.
Oui, bien sûr. Ouais,
d'accord. Un tronc de collecte. Il n'y en avait pas. Et donc, pour collecter de l'argent sans rien... le mineur m'a dit « Bah, écoute, il y a mon casque. » Et donc, j'ai collecté dans le casque du mineur. Et depuis cette collecte avec le mineur et ma rencontre avec les gens en voyant qu'on pouvait collecter et qu'en regardant les gens et en leur disant pourquoi on collectait, ça marchait, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Et donc, j'ai continué. Et à 14 ans, là, c'est Julien Lauprêtre qui, dans l'une des rencontres des jeunes, m'a identifié et puis il m'a plus lâché. Et la réciproque a été vraie, et j'ai donc accompagné le déploiement et la montée en puissance du Secours Populaire. Et j'ai travaillé avec Julien pendant 50 ans, et j'ai toujours été bénévole au Secours Populaire. Et donc je suis capable de parler du bénévolat, c'est effectivement un sujet que je connais bien.
On vous connaît au travers de toutes sortes d'actions, alors qui sont plus ou moins visibles, évidemment, par réflexe, parce qu'on a les images en tête. On pense à ces journées à la mer pour les enfants, mais ça va évidemment beaucoup plus loin. Le point commun de tout ce que vous opérez aujourd'hui, de tous vos efforts, c'est quoi ? C'est la lutte contre la pauvreté, la grande pauvreté ?
Le point commun, c'est la lutte contre la pauvreté, et sous toutes ses formes, pour nous, il n'y a pas de gradation, sous toutes ses formes, en tenant compte des situations, et en partant de cette analyse que nous avons fait nôtre, parce que c'est une réalité et qui a été faite par d'autres, c'est que la situation des enfants est la première situation à prendre en compte. Et non seulement nous le disons, mais nous faisons tout notre possible pour que le maximum de personnes s'en préoccupent, non seulement donne de l'argent et des moyens, ça c'est indispensable, mais aussi autour d'eux, ne détourne pas les yeux, regarde ce qu'il en est et ne considère surtout pas que ça ne pourrait en aucun cas jamais leur arriver. Parce que beaucoup de ceux que nous rencontrons dans ce qu'on considère comme des catégories moyennes, mmh, disent « nous n'aurions jamais imaginé que ça pourrait nous arriver ».
C'est un peu le cas de ces personnes âgées qui se tournent vers vous aujourd'hui, alors qu'elles ont cotisé toute leur vie et qu'elles se pensaient à l'abri du besoin, comme on dit.
Elles savaient qu'elles avaient de quoi. Elles n'avaient pas de quoi dépenser de façon outrancière, mais elles avaient de quoi subvenir au loyer, au chauffage. Et évidemment, dans la conjoncture actuelle, ces mots prennent une force particulière.
Tout autre signification.
Et nous sommes vraiment préoccupés. Parce que d'abord, la demande est croissante au Secours Populaire. Dans ces derniers mois, nous avons des augmentations de 20 à 40% de nouvelles personnes qui viennent France entière. Et nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Il n'y a pas de département qui échappe et ça concerne les urbains, les périurbains, en milieu rural, en milieu très rural. Au premier chef, les mamans seules avec enfants. Mais plus seulement les jeunes. Les étudiants.
Alors justement, j'allais y venir. Parmi ces nouvelles populations que vous adressez aujourd'hui, ces nouveaux bénéficiaires, comme on dit, on a les étudiants. Ça aussi, est-ce que c'est un phénomène nouveau ?
C'est un phénomène nouveau au sens où, au moment de la Covid, ce qu'on appelle les petits boulots ont disparu.
Eh oui.
Partout. Tous les types de petits boulots.
Bah oui, on ne pouvait plus aller travailler dans un fast-food pour payer sa chambre étudiante.
Mais on
ne
pouvait plus non plus faire du babysitting. Je veux dire,
oui.
Plus rien. Et donc, nous nous étions dit que, une fois cette période passée, grosso modo, nous allions revenir dans les situations que nous avions connues antérieurement. Et ce que nous constatons et qui nous inquiète profondément, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui, un étudiant dont les parents rencontrent des difficultés, parce que, dans un passé relativement récent, les parents pouvaient aider un peu. Ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne peuvent plus pour eux-mêmes. Et donc, les étudiants sont effectivement seuls. Et en ce qui concerne le Secours Populaire, nous avons des véhicules avec des produits qui font que nous allons sur les campus ou sur les parkings des campus quand on ne peut pas rentrer dans les campus, pour donner aux équipes associatives étudiantes de quoi pouvoir procéder elles-mêmes à des distributions auprès de leurs camarades. Donc ça, c'est une situation dans notre pays que nous n'avions encore jamais rencontrée. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ce n'est pas normal qu'un pays qui a la capacité de faire ne prenne pas en charge sa propre jeunesse pour que demain, cette jeunesse qui va travailler soit en mesure de contribuer à la richesse du pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas capables de vous dire quoi, mais nous nous rendons compte des effets. Et le Secours populaire, son originalité, y compris par rapport à d'autres collègues, c'est que nous laissons à chacun le choix d'analyse des causes, parce qu'on sait que sur ce sujet, on peut s'écharper facilement.
Oui.
Mais les conséquences, celles-là, elles sont indubitables. Et les uns et les autres, nous essayons de travailler sur ces conséquences. Et au Secours populaire, c'est même notre cœur d'action, si je puis dire.
Alors, on a bien posé le problème, je voulais qu'on parle des solutions. Évidemment, vous organisez à longueur d'année des campagnes de collecte de dons, mais ce qu'on sait souvent un peu moins, c'est qu'évidemment, on peut aussi donner de son temps à une organisation comme la vôtre.
Absolument. Pour le Secours populaire, le fait de faire plus que son don personnel, c'est ce qui permet d'être animateur-collecteur. C'est-à-dire le don n'est pas simplement un don en argent. C'est un don en activité, c'est un don en temps. D'ailleurs, nous le chiffrons, puisque ça fait partie des choses qui doivent être chiffrées par les associations. Et pour nous, l'heure de bénévolat, c'est une heure de SMIC chargée.
D'accord.
Et c'est dans les contributions volontaires en nature, ça figure dans nos bilans. Donc, le fait de consacrer du temps, d'abord le fait de consacrer du temps aux autres, c'est une source de joie pour celui qui le fait. C'est une source d'énergie. C'est la capacité de sentir qu'on est dans ce monde et qu'on pèse sur ce monde. Et donc, évidemment, tout le monde et chacun est le bienvenu. Là, nous n'avons pas de critères de refus, sauf le refus de l'altérité. C'est-à-dire les personnes qui voudraient venir au Secours populaire en disant « Oui, mais moi, je veux soutenir que ceux de telle catégorie. »
Non.
Alors, ils font ça ailleurs, mais pas au Secours populaire.
Alors, moi, j'ai découvert en préparant cette émission que la France est une sorte de championne du bénévolat. L'IFOP avait conduit une étude pour France Bénévolat il y a quelques années. En 2019, on y apprenait qu'un Français sur quatre est bénévole dans ce pays. On en compte donc plus de 13 millions. Alors, évidemment, tous ne font pas du caritatif. On peut être bénévole dans son club de bridge. Mais pour autant, j'ai voulu voir combien vous avez de bénévoles. On disait entre 80 et 100 000 environ.
On était à 82 000 avant la Covid.
Mmh.
Nous sommes aujourd'hui à plus de 90 000. Pour nous, c'est clair que c'est par une mobilisation volontaire et d'envie d'agir qu'il est possible de peser directement sur les conséquences des drames. Et on le voit d'ailleurs. Par exemple, lorsque l'on organise ces journées à la mer ou dans les grands parcs après le 15 août pour les enfants qui, de toute façon, ne vont pas partir s'ils n'ont pas cette opération du Secours populaire, nous voyons sur la durée, parce que nous rencontrons des personnes qui en ont bénéficié il y a 30 ans et qui sont aujourd'hui, y compris des cadres éminents dans notre pays, qui n'ont pas oublié.
Bien sûr. Ces bénévoles qui, un jour, décident de venir pousser la porte du Secours populaire, est-ce qu'il y a un portrait robot? Est-ce qu'il y a un bénévole type, j'ai envie de dire? Est-ce que, en termes d'âge, en termes de milieu social, non?
Ou ils sont tous différents? Absolument pas. Il n'y a pas d'image type. C'est de façon concrète, c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble des personnes qui écoutent en ce moment. C'est l'ensemble de la population dans notre pays, sous une forme ou sous une autre, qui à un moment ou à un autre se dit « Non, c'est pas possible que ça continue comme ça, je peux faire quelque chose. »
En pratique, quelqu'un qui a envie de vous donner un peu de temps, vous lui demandez quoi? Vous lui demandez plutôt de donner quelques jours par mois, quelques demi-journées par semaine? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à la demande?
Alors, un, on peut le faire à la demande. Deux, on lui demande pas quelque chose, on lui demande... vous avez envie de faire quoi? Vous, ce qui vous intéresserait, c'est quoi? Et on regarde dans l'ensemble des activités qui sont conduites, à l'endroit où la personne vient, qu'est-ce qui se rapproche de ce que la personne demande? Et on lui donne les coordonnées téléphoniques aujourd'hui, mail ou autre, pour qu'il aille rencontrer celui ou celle qui s'occupe de ça dans notre pays, à l'endroit où c'est, et que les personnes aient envie d'agir à leur porte ou qu'elles aient envie d'aider d'autres comme eux ou comme elles dans le monde, parce que nous avons aussi une activité dans le monde. Le Secours Populaire est présent avec ses partenaires et a des partenaires dans plus de 65 pays sur la planète, pour voir comment il est possible de les soutenir. En général, quand il y a une catastrophe, les premières demandes qui viennent, monde entier, quelles que soient les langues, c'est « aidez-nous à réouvrir l'école ». Et donc, quelles que soient les conditions, c'est ce qu'on commence par aider. Et aussi en direction des enfants, parce que dans tous les pays du monde, quelles que soient les situations, les adultes ont une préoccupation, les enfants. Donc on se parle la langue humaine et on trouve comment on procède aux traductions.
Alors, je le disais en introduction, AXA est partenaire du Secours Populaire au travers d'AXA à tout cœur, qui est cette association qui organise le bénévolat de ses collaborateurs. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce partenariat ?
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est maintenant un partenariat qui a une vraie durée, une vraie permanence, et que toutes les activités concrètes, terrain, que conduit le Secours Populaire, permet, dans le cadre des compétences des personnes qui travaillent dans la structure d'AXA, d'y contribuer à la mesure de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, nous avons du mécénat de compétences extrêmement précieux, et puis des personnes qui viennent pour les campagnes du Secours Populaire et qui sont présents et présentes dans toutes les initiatives populaires du Secours Populaire, et les portes et fenêtres du Secours Populaire leur sont largement ouvertes.
Alors, on ne va pas dérouler ensemble toute la liste des actions sur lesquelles AXA à tout cœur vous accompagne, mais je voulais quand même en citer quelques-unes. C'est souvent autour de grands rendez-vous. On pense évidemment à ces journées des oubliés des vacances, mais il y a aussi tout ce qui se passe à Noël avec les Pères Noël verts, les chasses aux œufs à Pâques, et puis des actions plus solidaires, plus spécifiques pendant les fêtes, des collectes, des dons, de la distribution de cadeaux, des sorties avec les familles, bref, des soirées aussi organisées à Noël et au 31 décembre pour des réveillons solidaires. Ma question, en fait, c'est simple. Est-ce que cette implication, cette mobilisation des entreprises et de leurs troupes, comme dans l'exemple d'AXA, c'est un autre moyen de les mettre à contribution, ou est-ce que ça a une valeur plus spécifique, plus précise ?
Ça nous est très utile. Et pour nous, c'est aussi très important de permettre à des personnes qui sont dans la vie active, au sens classique du terme, de pouvoir déterminer quel temps qui est discuté avec leur employeur, peut être consacré à des activités sociales qui génèrent de l'efficacité, y compris sur le plan professionnel. L'idée selon laquelle ça irait seulement dans un sens ne serait pas une idée fondée. Le fait d'avoir un regard vers l'autre et d'en prendre la mesure en dehors d'un dispositif financier est d'abord une action qui procure de la joie, tout simplement, de l'énergie, de l'envie de faire, et aussi de la relation entre des personnes qu'on n'aurait sinon jamais connues. Donc, c'est un partenariat de longue haleine, pour nous, qui est précieux, et sur lequel nous n'avons jamais eu, dans l'association, d'amis du Secours Populaire nous disant « Non mais attends, pourquoi vous travaillez avec eux, quoi ?» Ça a pu arriver pour d'autres, ça n'est jamais arrivé en ce qui concerne ce travail commun du dispositif AXA à tout cœur.
Alors, c'est important que des entreprises vous aident, c'est-à-dire que j'imagine que vous rencontrez régulièrement des grands patrons. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Vous leur demandez de l'argent ou vous leur demandez du temps ?
Les deux. Alors, on leur demande de l'argent, ça c'est clair. On leur demande du temps, c'est tout aussi clair. Mais on leur demande aussi de parler à leurs collègues et de dire ce que ça leur apporte de le faire. C'est en tout cas la démarche qu'on peut qualifier d'humaniste du Secours Populaire. De façon générale, nous ne pensons pas que l'homme est un ennemi de l'homme. Nous pensons que c'est par une démarche de connaissance et de compréhension qu'il est possible de faire avancer les choses. Et nous savons aussi que l'argent ne descend pas comme ça tout droit du ciel, et donc il faut le trouver. Et pour le trouver, il n'y a pas de dispositif, on dit ça c'est oui, ça c'est non, celui-là oui, celui-là non. Non, Il y a deux sujets sur lesquels le Secours populaire est parfaitement intransigeant, c'est le trafic humain et le trafic de drogue. En dehors de ces deux sujets qui, à notre sens, sont éminemment délictuels, pour ne pas dire autre chose, nous pensons qu'il est possible de travailler avec tout le monde.
Après presque une vie passée au service de toutes ces solidarités, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que la France est un pays solidaire ou est-ce que ce sont les Français qui le sont ?
Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est plus généralement les habitants de notre pays. La nationalité, c'est, on va dire, un sujet de droit. Mais pour ce qui concerne le Secours populaire, toutes les personnes... Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un pays comme celui-là ? Quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Révolution française. Et ce n'est pas juste dans les livres d'histoire. Et dans la première des constitutions, il est écrit que chacun doit avoir un travail. En ce qui concerne ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est à la société de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. C'est une décision qui remonte loin dans notre histoire et dont nous avons toute raison d'être fiers. Pour nous, nous sommes exactement dans cette démarche et derrière, dans la démarche éducative de ceux qu'on a appelés les hussards de la République. Pour nous, ce n'est pas un mot juste dans les livres.
Merci infiniment, Yad Steinberg. Si on veut en savoir plus, ou justement donner un peu de son temps, ou de l'argent, hein, bien évidemment, où peut-on vous retrouver ?
Secours populaire français. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Nous sommes nombreux. Et donc, de toute façon, on n'est jamais assez nombreux. Donc, tous ceux qui veulent aider financièrement, ou par leur temps, ou par des dons matériels, ou par toute idée que nous n'aurions pas encore et qu'ils pourraient avoir, nous, on est preneurs.
C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de confiance, émission à partager, à commenter, à retrouver sur votre plateforme de podcast habituelle. Alors, si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, d'abord, n'oubliez pas, hein, pensez bien à vous y abonner pour ne pas rater les suivants. Et surtout, n'hésitez pas à aller explorer les trois saisons précédentes assez riches. Questions de confiance, c'est une production Heavyweight pour AXA France. Prochain engagement au prochain épisode. Salut à tous.